Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. On me dit qu'à certains endroits, vous n'avez pas pu écouter le journal de Sébastien Duhamel. Visiblement, nous avons eu un problème technique, donc veuillez nous en excuser. Théoriquement, vous devez en ce moment même pouvoir nous écouter un peu partout à travers le monde. Journée spéciale sur RFI, déchets, ça déborde, on fait quoi ? Dans 40 minutes, Priorité Santé avec Caroline Paré s'intéressera à l'impact sanitaire de l'accumulation et de la destruction des déchets. Ensuite, dans 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide lancera le débat. Peut-on réellement imaginer une société sans plastique ? Quelles seraient donc les alternatives ? Et puis, dans le courant de l'après-midi, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec Caroline Lachowski qui s'interrogera sur les rapports que nous entretenons avec nos déchets. Mais pour l'instant, nous sommes toujours avec Edem d'Almeida, expert en gestion et valorisation des déchets. Edem d'Almeida, vous avez créé au Togo une entreprise dédiée justement à la gestion des déchets recyclables. Vous nous raconterez votre aventure, vous faites partie de ces précurseurs sur le continent africain à gérer la collecte, mais aussi la gestion, le recyclage des déchets. Priorité, vous le savez, dans cette émission aux auditeurs, ce sont eux qui interviennent, qui posent des questions, qui témoignent. Plusieurs témoignages déjà en première partie d'émission. Maki, bonjour.
Oui, Juan, bonjour et bonjour à tous.
Soyez le bienvenu. Vous avez une question à poser à notre invité, Edem d'Almeida.
Exactement, exactement. Alors, comme l'ont rappelé les précédents auditeurs par rapport à les témoignages, on constate aussi qu'il y a des difficultés pour la collecte des déchets. Là, il y a un manque de facilité dans notre pays. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est quels sont ces pays qui sont précurseurs en la matière ?
Ah, y a-t-il des pays sur le continent africain précurseurs en la matière, Edem d'Almeida ?
Alors, la prise de conscience fait que tous les pays s'y mettent. Il est vrai que les résultats sont plutôt disparates en fonction des régions. Les initiatives les plus abouties, nées de volonté politique ou d'initiatives privées, se situent plutôt en Afrique du Nord ou plutôt en Afrique du Sud. Mais sur le continent, en Afrique subsaharienne, il y a des États qui commencent à prendre le leadership.
On cite souvent la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est celui dont j'allais parler, qui a vraiment pris, je dirais, la mesure des sujets, où les gouvernants ont pris la mesure du sujet.
Mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Excusez-moi, ça veut dire quoi prendre la mesure du sujet?
Aujourd'hui, ils ont compris, la Côte d'Ivoire, il me semble, avec les éléments que nous avons, a compris que la question des déchets ne pouvait pas se résoudre uniquement sur la question de la collecte. Mmh. Il faut y intégrer des entreprises, c'est de plus en plus un cas favorable, notamment à la démarche de responsabilité sociale des entreprises, qui s'organisent elles-mêmes en association pour apporter des réponses. C'est le gouvernement qui met en place un cadre réglementaire. Il y a encore quelques insuffisances, certes. Il y a de vrais sujets d'investissement où on fait venir effectivement des partenaires privés. Il y a des grands groupes qui sont annoncés. Il y a de vraies initiatives. Il y a la création de centres d'enfouissement technique, mais en même temps des projets de valorisation, notamment en incluant le secteur informel. Tous ces ingrédients font que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait vraiment figure de leader sur cette question.
Un témoignage qui nous vient de Bamako, Mali. Bonjour Youba.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons avec Edem d'Almeida.
Bonjour Edem, moi je voudrais dire que ici à Bamako, nous on a l'impression dans les rues de vivre dans des dépotoirs, enfin dans des décharges à ciel ouvert. Et je pense que les solutions idoines doivent passer aussi par l'éducation. Parce que au moins, je me dis, pour emprunter une formule, que la durée de la lutte contre les sachets plastiques doit être au moins proportionnelle à la durée de vie de ces sachets plastiques-là, qui sont de 450 ans. Et donc, il faut les inscrire dans une institution qui est durable.
Ouais. Enfin, au Mali, si je ne m'abuse, la production, la vente, l'usage de sacs plastiques est interdit depuis déjà plusieurs années, non ?
Oui, mais peut-être interdit, mais dans la réalité, elle n'est pas appliquée du tout.
Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, Youba.
Pas du tout, monsieur.
Et à votre niveau, est-ce qu'à votre niveau, vous continuez à utiliser des sacs plastiques ?
Honnêtement, oui.
Oui, honnêtement, bah, vous avez le droit. Vous êtes surpris, Edem Dalmeida ? Enfin, vous avez le droit. C'est bien de reconnaître que vous continuez à utiliser des sacs plastiques alors que la loi vous l'interdit. Edem Dalmeida, on voit bien qu'il ne suffit pas d'adopter des lois pour qu'elles soient respectées. En la matière, le sac plastique est un cas récurrent sur le continent.
14 pays sur le continent africain ont voulu suivre l'exemple du Rwanda sur la question de l'interdiction des sacs plastiques. Ces 14 pays ont tous échoué. Mon pays n'est pas
le
un
Togo.
Cas isolé. Le Togo n'est pas un cas isolé. Le Bénin vient de fêter le premier anniversaire de cet échec. Il y a ceci appelle à une prise de conscience. Il faut redéfinir la question du déchet dans nos économies. Nous n'avons pas besoin de faire du Togo le Rwanda, nous n'avons pas besoin de faire du Bénin le Rwanda. Il y a de vrais sujets. Je parlais du cas de la Côte d'Ivoire qui revient parce que sur cette disposition, parce qu'elle a compris que le secteur privé n'a pas été intégrés ou les industriels n'ont pas été intégrés à juste titre et qu'il faut repenser la manière de faire. Et donc ces lois doivent être totalement aujourd'hui revues, abrogées, renégociées.
Oui.
Il ne faut pour terminer arrêter de mettre en opposition les fonctionnaires dont la compétence n'est pas de définir vraiment des modèles économiques, mais de définir de vrais cadres.
Mais quand vous dites, excusez-moi,
Edem
Dalmeida, je suis interpellé par vos propos. Vous dites, il faut abroger ces lois.
Bien
qu'on revient sur les lois qui interdisent l'utilisation de sacs plastiques non biodégradables.
Non, je vais vous dire. D'ailleurs, cette question de biodégradable est une vaste escroquerie sur le continent africain.
Ah bon?
Oui, une vaste escroquerie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'unité aujourd'hui pour fabriquer ces biodégradables qui coûtent d'ailleurs 4 fois plus cher que le sac plastique.
Donc, en attendant, on peut les importer, non?
On les importe, mais ça coûte 4 fois plus cher.
Oui.
Pour nos ménages. Nos industriels libèrent sur le marché, dans cette vaste escroquerie, ce qu'on appelle plutôt de l'oxodégradable. C'est exactement le même sac plastique avec les mêmes composants chimiques qui se désintègrent uniquement sous l'effet de la lumière. Alors, qui trompe qui?
Oui.
Je pense qu'il faut revoir cette question, créer un cadre incitatif qui accompagne peu à peu les industriels vers de nouvelles filières. Et un élément essentiel, s'il vous plaît, dans la question du sous-emploi, dans ce contexte du sous-emploi, créer une vraie filière de pollueurs-payeurs va générer un certain nombre d'emplois dans nos territoires et qui vont petit à petit amener à faire disparaître ces sujets de sacs plastiques dans nos territoires.
Je rappelle que 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide sera consacré dans un peu plus d'une heure et quart aux déchets plastiques. Peut-on emballer sans plastique? Voilà la question que posera Emmanuel Bastide à ses invités. Au standard, Désiré est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de la Radio Mondiale, vous avez une question?
Oui, merci. Je salue tous les auditeurs de RFI. J'ai une petite préoccupation pour en ce qui concerne les sujets d'aujourd'hui.
Oui.
Je voulais savoir, est-ce que les pays occidentaux envoient-ils les déchets en Afrique? Si oui, quels sont ces déchets qui sont concernés? Et pourquoi ces pays occidentaux ne traitent-ils pas ces déchets chez eux localement?
Alors, les pays occidentaux envoient-ils leurs déchets en Afrique? Question claire, mais peut-être réponse compliquée, non?
Non, sans ambiguïté, oui.
Oui.
Tout comme la Chine a été longtemps la poubelle des
occidentaux.
C'est une réalité. Il y a des équipements électriques informatiques appelés des 3E qui arrivent. Il y a des déchets dangereux. Je peux rappeler malheureusement ce triste événement du Probokoala
en Côte d'Ivoire.
Ce sont des vrais sujets. Il y a énormément de déchets dangereux qui sont déversés sur nos côtes. Mais nous ne pouvons pas taper uniquement sur l'Occident. Nous sommes nous-mêmes responsables. Nous gérons un certain nombre de choses. La corruption, c'est parce que nous l'entretenons nous-mêmes. La misère sur ces sujets, c'est que nous l'entretenons nous-mêmes. Tout ça parce que le déchet est lucratif. Le déchet est lucratif.
On voit bien des pays en Asie du Sud-Est qui étaient jusqu'à présent considérés comme la poubelle des Occidentaux. On voit bien plusieurs pays se mobiliser. Je pense à la Chine, à la Malaisie, aux Philippines, à l'Indonésie, qui ont clairement dit stop aux Occidentaux. Ils ont même, pour certains de ces pays, renvoyé des conteneurs vers l'Europe et vers les États-Unis.
Exactement. Donc, et les pays les plus touchés, le Canada, la France, l'Allemagne, les États-Unis, par cette mesure. Mais dans le même temps...
Mais donc les pays africains peuvent faire de même,
mais bien
s'ils le voulaient.
Bien sûr qu'ils peuvent et ils doivent faire de même. C'est pour ça que je dis que ce sont des sujets liés à des corruptions, liés aux personnes. Mmh. Et ça, ce sont des sujets qu'il faut traiter.
Ouais. Est-ce que l'Afrique ne risque pas de devenir la nouvelle décharge du monde quand on voit que les pays asiatiques, eux, refusent d'accepter les importations?
C'est le danger. Et c'est indéniable. C'est ce qui va se passer si on ne fait rien, si on ne prend pas la mesure de l'urgence à l'instant où nous parlons. Mmh. C'est exactement ce qui va se passer.
Alors, Edem d'Almeida, je vous présente Eric Kamjo. Il est Camerounais. Bonjour Eric Kamjo.
Bonjour Juan.
J'ai envie de mettre le coup de projecteur sur votre initiative. Vous êtes Camerounais avec Gatien Abba qui n'a que 27 ans. Vous avez fondé EducMe. Alors votre cheval de bataille, c'est la scolarisation des enfants issus de familles à faible revenu. L'idée que vous avez, c'est de créer un réseau d'écoles sociales construites à base de matières plastiques recyclées. Racontez-nous.
La problématique est simple, vous venez de le planter. Déjà, tout à l'heure, le Cameroun a en moyenne 60 000 tonnes de déchets plastiques par an. Et si nous estimons à 28 800 la tonne, le nombre de bouteilles, ça équivaut à 1 728 millions de bouteilles qui sont dans la nature chaque année au Cameroun. Donc, EducMe, dans cette problématique dont on a voulu apporter, contribuer, n'est-ce pas, à l'assainissement de nos villes, en mettant au pied un système de collecte avec un système de compensation financière qui permette aux ménages, aux associations, aux collecteurs individuels de nous engranger les bouteilles afin que nous puissions fabriquer des éco-briques pour pouvoir construire ces écoles dans les zones rurales.
Et vous avez besoin, une question que doivent se poser de nombreux auditeurs, Eric Kamjo, vous avez besoin de combien de bouteilles plastiques pour construire une école?
Pour construire une école, il nous faut en moyenne 15 000 bouteilles.
15 000 bouteilles.
Mmh. Oui, que nous devons remplir avec des déchets du LDPE, qu'on appelle low density polyéthylène, un peu plus particulièrement appelé plastique, ou film plastique, et on remplit également avec de la terre pour former des éco-briques. D'accord. C'est ça qui nous permettra de fabriquer.
Et la première école verra le jour le mois prochain, il me semble.
Oui, effectivement, nous avons eu quelques soucis, il devait être déjà achevé. Un an, on a eu un partenariat avec une association américaine appelée Hugging Forward, avec qui nous avons mis sur pied un guide de construction durable. Il fallait respecter certaines normes en termes de qualité, et ce qui a un peu retardé le projet, mais c'était mieux parce qu'il fallait qu'on puisse, n'est-ce pas, respecter ce type de qualité. Et là, nous sommes presque, le projet presque achevé. Il aura l'inauguration aura lieu le mois prochain.
Le mois prochain. Bien, écoutez, bravo pour cette expérience, cette initiative incroyable, Edem d'Almeida. Des briques écologiques fabriquées à partir de déchets plastiques recyclés. Voilà un exemple à suivre.
C'est un exemple et bravo Eric pour cette initiative. Mais ceci amène aussi bien évidemment à la question des modèles économiques. C'est ce dont nous avons besoin. Il y a un sujet porté d'ailleurs par l'UNICEF et Conceptos Plasticos sur un sujet similaire sur la Côte d'Ivoire. Il y a Nestlé qui s'intéresse à tous ces sujets. Mais il est essentiel. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque, c'est la définition des modèles économiques. Nous abordons trop le sujet déchets sur le continent sous l'émotion et sous un angle, je dirais, purement humanitaire. Mmh. Oui, c'est important, mais nous devons en vivre et nos enfants doivent en vivre. Et les tours que nous construisons, les richesses que nous amassons, nous devons absolument faire en sorte que nos enfants puissent en bénéficier parce que leur sécurité est menacée si rien n'est fait aujourd'hui.
Alors, je voudrais qu'on écoute Osana qui nous a contacté de N'Djamena. Bonjour Osana.
Bonjour Anne Gomez et bonjour à vos invités.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Oui, des groupes de jeunes s'organisent de plus en plus pour rendre le quartier plus propre. Et par exemple, chez moi, dans le quartier Chagua, à N'Djamena, mais ils ne reçoivent aucune aide de la mairie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que des initiatives locales, des collectes de déchets indépendants de l'État sont-elles communes en Afrique?
Ah, alors effectivement, on voit bien ces jeunes, initiatives personnelles, on ramasse les déchets dans le quartier sans forcément avoir une aide, une subvention de la part de la municipalité. Quel conseil avez-vous envie de donner à cet auditeur, Edem d'Almeida ?
Il faut savoir d'où l'on vient. La question liée à la collecte des déchets ne vient pas des gouvernements, ne vient pas des collectivités. Ça a été une usurpation faite aux jeunes qui, dans un instant de survie, au début des années 90, avec les troubles politiques que nous avons connus sur le continent, se sont organisés pour récupérer ou en tout cas créer des activités génératrices de revenus. Nous les avons spoliés sous prétexte que des acteurs comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme l'AFD, ont trouvé un bon filon pour structurer nos pays. Bien sûr, cela partait d'un bon sentiment. Mais malheureusement, nous savons sacrifier cette jeunesse qui est aujourd'hui en demande d'emploi.
Alors justement, vous parlez d'emploi, on nous demande, la gestion des déchets pourrait-elle se révéler être un facteur de création d'emplois ? Oui.
Bien sûr, et la démonstration est faite tous les jours. Et je le dis aujourd'hui, si nos gouvernements, nos décideurs, les investisseurs, les banques de développement prennent la mesure de redéfinir entièrement la notion de déchets et de l'environnement, on en fait des axes stratégiques de développement des États africains avec la création de centaines de milliers d'emplois dans les secteurs de l'assainissement, du déchet et de l'eau.
Des centaines de milliers d'emplois. Je vous présente Saada Guiro. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Avec votre frère, vous avez créé une association qui est chargée de collecter les ordures dans une ville de la région du nord du Burkina Faso, la ville de Gourcy.
Oui, c'est bien ça, monsieur.
Racontez-nous, on vous écoute.
Oui, l'association, c'est ABMZ, Association Bayou Malgré Zamana, en langue nationale morée.
D'accord.
Pour la traduction française, c'est l'association Temps pour le développement de la patrie. Mmh. Effectivement, nous, l'association a été créée en 1995 et nous sommes reconnus en 2000.
Et que faites-vous alors? Justement, racontez-nous comment vous collectez les ordures dans cette ville de 30 000 habitants et surtout ce que vous en faites ensuite, une fois collecté.
La collecte est faite à des niveaux. Nous avons la pré-collecte, c'est-à-dire on a déposé des petits fûts dans les différents ménages que nous partons chaque semaine vider les poubelles pour transporter dans les centres de traitement. Ensuite, dans les espaces publics, on a déposé des bennes à déchets. Après, il y a des dames, il y a des autres équipes de dames qui balaient la rue, qui versent, et puis nous, on transporte ça dans les centres de traitement.
Et une fois,
ensuite,
et une fois qu'ils sont dans les centres de traitement, parce que c'est ça qui est intéressant, que fait-on de nos déchets ?
Oui, une fois collectés et puis transportés dans les centres de traitement ou centres de tri, il y a une équipe de dames qui sont là pour trier les déchets en plusieurs fractions. Ouais. Nous avons les cartons, les déchets plastiques, tels que les sachets blancs, noirs, les bidons, les bouteilles que nous séparons à plusieurs fractions. C'est-à-dire, cette séparation nous permet en réalité de valoriser chaque type de déchets arrivé dans notre centre.
Ouais, donnez-moi un exemple. Saada Guiro, le temps passe vite malheureusement, mais avec des sachets plastiques, que faites-vous ensuite ?
Les sachets plastiques sont transformés en pavés,
en meubles,
c'est-à-dire des sièges, des tables, et présentement nous sommes en train de confectionner des tables pour des élèves.
Des tables pour des élèves, donc des tables pour des écoles. Edem d'Almeida, une réaction, après ce témoignage, il nous reste une minute, hein, je suis désolé.
Oui, ben, cela montre tout simplement que nous sommes tous concernés et que nous nous débattons comme quelqu'un qui risque de se noyer. Et comme le dit, si vous sautez dans un feu, vous devez de toute façon refaire un autre saut. Si vous voulez survivre. Donc, il faut saluer les initiatives. Elles ne sont pas suffisantes, mais l'État, les gouvernants doivent totalement changer d'approche. Les partenaires au développement doivent redéfinir même la coopération entre États sur ces questions de déchets.
C'était passionnant. Merci beaucoup, Edem d'Almeida, d'avoir été avec nous, d'avoir dialogué avec les auditeurs de RFI. Cette journée spéciale gestion des déchets se poursuit juste après le journal, dans 10 minutes, avec Caroline Paré. Bonjour Caroline.
Bonjour Juan.
Alors la santé, les conséquences évidemment sur notre santé.
Oui, comment cette accumulation et même la destruction de certains déchets favorisent certains troubles, certaines maladies respiratoires, bien sûr, quand on brûle